Bienvenue, vous écoutez Droit vers l'Europe, une série de podcasts proposés par le ministère de la Justice pour aider les professionnels du droit à appliquer la législation de l'Union européenne. En compagnie d'un expert, nous revenons sur une procédure en matière familiale, civile et commerciale. Il partage avec nous son expérience pour une meilleure application des règlements européens. Dans cet épisode 10, nous abordons les règles de compétence en matière familiale du règlement Bruxelles 2 bis et sa refonte. Sophie Rodriguez, vous êtes conseillère au pôle famille de la Cour d'appel de Paris. Vous faites également partie du groupe d'experts qui travaille sur le guide pratique de ce règlement. Pour commencer, pouvez-vous nous présenter brièvement le champ d'application de ce texte ?
Le champ du règlement Bruxelles 2 bis est assez simple à appréhender en lisant simplement son intitulé. Nous l'appelons dans la pratique le règlement Bruxelles 2 bis, mais il a aussi un nom technique, le règlement numéro 2201/2003. Et son intitulé complet, c'est le règlement relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale. On voit tout de suite quels sont les deux thèmes qui sont abordés par ce règlement. D'une part, la matière matrimoniale. Alors, c'est assez contre-intuitif, mais en réalité, cela traite du divorce, de la séparation de corps et de l'annulation du mariage. Et la matière de la responsabilité parentale, qui a trait à tout ce qui est rapport juridique entre les parents et les enfants, ce qu'on appellerait en droit français l'autorité parentale, l'exercice de l'autorité parentale. Sur le plan de son applicabilité au plan territorial, évidemment, ce règlement étant un règlement de l'Union européenne, il s'applique aux juridictions des États membres de l'Union européenne, avec une petite exception, le Danemark, qui est toujours un petit peu à part dans ses règlements.
Une refonte est à venir en août 2022. Quels sont les changements concernés ?
Alors, la refonte a en réalité déjà été adoptée. Son texte est déjà connu. C'est son applicabilité qui est reportée au 1er août 2022. Ceci étant, pour ceux qui connaissent ou qui vont découvrir à l'instant les règles relatives à la compétence en matière de responsabilité parentale comme en matière matrimoniale, il n'y a pas de changement substantiel. Les changements sont essentiellement formels, un peu techniques et rédactionnels, mais pas de grosses révolutions sur ces deux matières-là. C'est d'ailleurs l'un des points qui a certainement été critiqué du fait de cette refonte, que l'on a jugé assez peu ambitieuse sur ce plan-là.
Merci. Quelle est la méthode à suivre par les praticiens pour identifier la juridiction compétente dans un dossier transfrontière ?
Le tout premier point à penser, à réfléchir, c'est la matière. C'est la raison pour laquelle nous avons parlé précédemment de cette distinction entre la matière matrimoniale et la matière de la responsabilité parentale. Il s'agit à chaque fois, dans un dossier, de déterminer quelles sont les matières concernées. Dans un dossier familial, on peut avoir, par exemple, la question du divorce, proprement dit, la dissolution du lien matrimonial, les questions relatives aux enfants, qui correspondent à la matière de la responsabilité parentale. On pourra avoir aussi des questions de pension alimentaire, qui correspondront à une autre matière, qui sont les obligations alimentaires. Et à chaque fois, pour chaque matière, il va falloir décliner de façon systématique et très méthodologique, deux points. D'abord, la compétence au plan international, et ensuite, dans un deuxième temps, et dans cet ordre-là, la loi applicable. Ici, ce qui nous intéresse, dans un premier temps, et pour ces questions de compétence, ça va être donc de déterminer selon quels critères on va considérer que le juge français est compétent pour traiter d'une question d'abord de divorce, c'est la matière matrimoniale. Et ensuite, on se posera la question de savoir comment il est compétent, pourquoi il est compétent en matière de responsabilité parentale. Dans la matière matrimoniale, pour la matière matrimoniale, il y a 7 critères alternatifs fixés par l'article 3 du règlement. Alors, c'est un petit peu fastidieux. Ils sont énoncés les uns après les autres. J'allais dire, il suffit de les lire. Ce qu'il est important de comprendre, c'est que dans l'Union européenne et dans la législation de l'Union européenne, la question de la nationalité n'est pas une question essentielle. C'est un critère parmi d'autres, mais il n'est pas prioritaire, primordial. Et par exemple, pour ce qui concerne la compétence en matière matrimoniale, la question de la nationalité n'est prise en considération parmi d'autres critères que lorsqu'il s'agit de la nationalité commune des deux époux. Si les époux ont des nationalités différentes, alors ça ne sera pas un critère pertinent. En revanche, le critère pertinent qui se décline sur les 6 autres critères, en dehors de la nationalité commune, c'est le critère de la résidence habituelle, l'endroit où la personne vit, où elle a le centre de ses intérêts, c'est ce que dit la Cour de justice de l'Union européenne, intéresse beaucoup plus le législateur de l'Union européenne. Et ces différents critères posés pour la matière matrimoniale sont des critères alternatifs qui n'ont pas de hiérarchie entre eux. Il ne s'agit pas de vérifier si le premier des critères, qui est la résidence habituelle des époux, est rempli. Et seulement si ce critère n'est pas rempli, alors on va regarder le deuxième. Peu importe qu'on soit sur le premier critère énoncé ou sur le dernier, il suffit que l'un d'entre eux soit rempli pour que la compétence du juge du pays qui est saisi, en l'occurrence le juge français, soit retenue. Donc là, il s'agit de comprendre comment fonctionne la compétence en matière matrimoniale. Ensuite, il y a une autre matière à examiner. On va voir si vous avez suivi.
La responsabilité parentale.
Bravo. Bon, alors là, c'est beaucoup plus simple. Il y a un seul critère, en réalité, qui est à retenir, c'est celui de la résidence habituelle de l'enfant. En fait, la question de la résidence habituelle, on la retrouve tout du long dans la plupart des règlements de l'Union européenne. Et c'est un critère qui est très simple à énoncer, deux mots, hein, résidence habituelle, qui est beaucoup plus compliqué à caractériser. Il s'agit en fait de déterminer quels sont les éléments de fait. Alors, la Cour de justice de l'Union européenne dit les circonstances de fait. Tout un réseau d'indices qui vient désigner un pays comme ayant un lien étroit avec une situation donnée. Et pour l'enfant, ça va être son lieu de scolarité, où vivent ses copains, où l'enfant va aller faire du foot, qui est son pédiatre. Tous ces éléments-là vont être mis bout à bout et vont permettre de désigner un état avec lequel, manifestement, la situation de l'enfant a plus de liens qu'un autre état.
Pourquoi est-il important de s'interroger sur la compétence du juge français ?
C'est important parce que ça fonde la confiance mutuelle entre les États membres. Ça n'est que parce que les différents États membres sont convaincus que les juges vont examiner chacun qu'ils sont bien les plus aptes à rendre une décision dans une situation donnée, qu'ils acceptent de négocier des instruments qui permettent in fine la circulation et la reconnaissance des décisions. Sans cette confiance mutuelle, nous n'avons pas ces instruments-là. Et on l'a vu dans des affaires traitées par la Cour de justice de l'Union européenne, ça a un impact majeur dans la circulation et l'acceptation de la circulation des décisions au sein de l'Union européenne, même si ça ne correspond pas, la vérification de la compétence, à un critère de reconnaissance prévu par le règlement.
La circulation des décisions fera l'objet d'un autre podcast. Merci Sophie Rodriguez.
Je vous en prie.
Les podcasts Droit vers l'Europe du ministère de la Justice sont cofinancés par la Commission européenne. Retrouvez tous les épisodes sur justice.gouv.fr et sur les plateformes d'écoute.